Bonjour, Raymond Richard au micro.
Avec Isabelle, nous lisons dans l'émission Les mots de la foi, l'évangile selon saint Matthieu. Et nous retrouvons au chapitre 17 le texte de la transfiguration, c'est-à-dire nous avions terminé notre dernière émission par ce texte. Et qu'est-ce que ça nous dit la transfiguration ? Avec ces personnages qui s'entretiennent auprès du Christ, Moïse et Élie, l'intervention de Pierre qui veut bien construire une tente autour de Troie, comme si la vision pouvait durer. Une vision, ça ne dure pas trop longtemps.
Mais en fait, cette présence d'Élie et de Moïse, elle atteste qu'en Jésus s'accomplit la loi et les prophètes.
C'est la filiation, Ancien Testament, Nouveau Testament, si pour nous ça a du sens. Et il y a aussi l'intervention de la voix.
Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà. Donc Jésus est bien le Messie attendu en route vers sa passion. Sa résurrection, ça rappelle la voix qu'on a entendue le jour de son baptême.
Voilà, c'est-à-dire que Dieu, le Père, intervient lui-même après cette transfiguration. Cette voix confirme que Jésus est bien le Messie. Et puis, c'est intéressant aussi, c'est pas la transfiguration qui amène les disciples à se mettre la face contre terre, mais c'est la présence de Dieu. Et le Christ, qui est le médiateur avec le Père, nous dit « Soyez sans crainte ». Et il ne voit plus que Jésus seul.
Et donc là, les disciples vont montrer qu'ils reconnaissent la présence de Dieu dans l'expérience qu'ils viennent de vivre.
C'est vrai.
Présence divine.
Et ensuite, il y a ce dialogue sur Élie. C'est intéressant parce qu'on imagine que si des disciples interrogent sur Élie, c'est parce que les autres ont quand même parlé de ce qu'ils avaient vécu. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, les disciples interrogent pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord. Et voilà. Eh bien, on peut lire le texte.
Et les disciples l'interrogèrent. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Il répondit : Certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme lui aussi va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste.
Donc, ce qui rappelle aussi la filiation entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, puisque effectivement, dans l'Ancien Testament, on attendait pour les temps où Dieu venait intervenir, envoyer le Messie, eh bien, on parlait d'Élie. Et puis, on enchaîne sur la guérison d'un épileptique qui montre encore cette puissance du Seigneur.
Mais quand même, qui rappelle qu'il n'invite pas l'Église à faire des miracles brillants, mais justement, on demande à l'Église de faire preuve de foi.
C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un homme qui vient en disant « J'ai été voir tes disciples ». Et puis, ils se sont montrés impuissants. Ils n'ont pu guérir mon fils. Et Jésus dit « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? Et puis, amenez-le-moi. » Et puis, il guérit l'enfant dans cette heure-là. Et le dialogue entre les disciples et le Christ, « Pourquoi n'avons pas pu le chasser ?» Et il répond, « La pauvreté de votre foi. » Donc c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui fait les miracles. La reconnaissance du Christ, c'est la vie de foi.
Oui, et puis on amorce aussi un petit peu le fait que, ben voilà, on va s'adresser à des petits. Voilà, là, c'est dans l'enfant et la mission.
Elle est pour tous.
Elle est pour tout le monde.
Mais c'est vrai que la réponse là, en vérité, je vous le déclare, si un jour votre foi est semblable à une graine de moutarde est tout petit, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, elle y passera. Rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire que la foi permet tout. Alors, on dit que rien n'est impossible à Dieu, mais... Et il précise...
Mais il faut quand même avoir la foi.
La foi. Et c'est intéressant. Et puis, ce démon ne peut s'en aller que par la prière et le jeûne. Donc, la foi. Et la foi en acte. Prier, jeûner. Et en même temps, l'intervention du Père, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». On est en présence d'Élie, donc on navigue sur les hauteurs de la... De la foi, si j'ose dire. Et puis là, le terre à terre, le Christ se présente aussi comme étant le Messie, mais un Messie qui ne correspond pas complètement à ce qu'attendaient les Juifs, puisque il faut payer l'impôt à César. Et on a ce miracle d'un poisson. Le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, dit-il à Pierre, tu y trouveras un statère pour payer l'impôt. C'est quand même assez extraordinaire, ce passage qui nous fait passer du monde de la foi, du monde de la... On est un peu, non pas dans l'encens, mais on est dans la religion la plus éthérée, semble-t-il. Et puis d'un seul coup, non, redescendons sur terre.
Oui, puis ça rappelle aussi qu'il y a une relation filiale, en fait, avec Dieu. Et aussi, Jésus, il est quand même solidaire avec les hommes.
Voilà. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a ce passage, justement. Bon, on peut le lire, peut-être. Quel est ton avis ? Demande-t-il à Pierre. Et puis, auparavant, est-ce que votre maître ne paie pas les 10 drachmes, c'est-à-dire l'impôt ? Jésus pose la question à Pierre, quel est ton avis ? Et il enchaîne sur ce que sont les rois de la terre, les puissants de la terre. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? C'est intéressant ça. Comme il répondait « des étrangers », Jésus lui dit « par conséquent, les fils sont libres ». Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Voilà, on est vraiment dans la société, Jésus est immergé dans cette société. Le royaume de Dieu.
Voilà qui est le troisième grand discours de Jésus qui s'adresse à ses apôtres. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le déclare, si vous ne mangez et ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Celui-là, donc, qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant, comme celui-là, m'accueille moi-même.
Donc là, nécessité de se faire petit comme un enfant. Et bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que dans une époque où les enfants sont rois, on ne saisit plus l'importance de se faire petit comme un enfant, parce qu'on n'est pas à une époque où les enfants sont rois. À l'époque, d'abord, il y a une mortalité infantile très très forte. Et puis dans le monde romain, avant d'accueillir l'enfant comme l'enfant, il faut que le père de famille l'accueille comme enfant, le reconnaisse comme enfant. Et il demeure enfant, donc dépendant, jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce que son père lui reconnaisse sa dignité de citoyen et donc le sorte de l'enfance. Et là, le Christ nous propose d'être comme un enfant, c'est-à-dire de celui qui est complètement dépendant de l'environnement, complètement dépendant de sa famille, et de se reconnaître dans une relation filiale avec Dieu le Père. Et ça, je trouve que ça, c'est quand même, cette comparaison nous amène à, finalement, est-ce qu'on a cette confiance ? Une et question.
Effectivement, il y a cette dépendance, mais aussi, c'est peut-être aussi les petits, ceux qui croient en Jésus, mais en fait, qui ont encore une foi qui est fragile.
Puisque le Christ pose la question, si on avait comme un grain de moutarde de foi, alors qu'il est à la fois avéré au moins comme un grain de moutarde. Bon, en tout cas, ce sont ces questionnements que Matthieu nous propose d'entendre. Et puis, justement, le Christ enchaîne sur une mise en garde dans la relation, justement, à ses enfants. Ses enfants, ces gens qui ont la foi, ne les scandalisons pas. Oui, alors, cette mise en garde, on peut la lire peut-être.
Mais quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. Malheureux le monde qui cause tant de chutes. Certes, il est nécessaire qu'il y en ait, mais malheureux l'homme par qui la chute arrive. Si ta main ou ton pied entraîne ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, manchot ou estropié, que d'être jeté avec les deux mains ou les deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Mais c'est sévère.
C'est sévère, puis on imagine que dans la réalité, personne ne va se couper le pied, la main ou s'arracher l'œil. Même s'il est cause de péché, de ce qui nous sépare de Dieu, et de ce qui scandalise ou entraîne la chute d'un de ses petits. Donc là, ce sont des avertissements. Et à notre époque, pour tous ces petits qui dépendent des autres, des puissants, les puissants qui sont les puissants politiques, les puissants économiques, les puissants dans l'Église aussi, ceux qui ont le pouvoir dans tous ces lieux, et qui ne prennent pas soin des petits qui leur sont confiés, que ce soit les enfants ou que ce soit leurs subordonnés, que ce soit prendre soin de l'autre, tout simplement. Donc, là, le Christ nous rappelle cette responsabilité sociale que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Malheureux le monde qui cause tant de chutes, dit-il. Et là, on peut trouver que ce passage rejoint le texte du pape Fratelli Tutti. Soyons frères, et si nous ne sommes pas frères, si nous ne tenons pas compte des autres, des frères et des sœurs qui sont autour de nous, eh bien, on a peut-être cet avertissement, cette mise en garde qui nous rappelle que il faut être bienveillants les uns vis-à-vis des autres.
C'est pour ça qu'après, en fait, elle enchaîne sur la brebis égarée.
Oui.
Vraiment aller rechercher, en fait, la seule brebis qui est égarée, tout laissée.
Voilà, la centième.
La centième, elle est aussi importante, même plus importante que peut-être les 99 autres.
Donc, retrouver la brebis égarée, c'est-à-dire que le soin, c'est prendre soin de tous et aussi de celui qui est le plus petit, celui qui s'est égaré. Eh bien, ce sera la fin de la réflexion sur ce passage. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits.
Car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde.
Voilà donc ce message d'espoir. Aucun de ses petits, aucun des hommes qui sont autour de nous, ceux peut-être dont on pense qu'ils sont loin de Dieu, ceux dont on pense qu'ils n'ont pas la foi, ceux dont on pense que... Enfin bref, tous ceux que l'on regarde peut-être avec condescendance. Le Christ nous rappelle, soyez en garde, soyez comme ces petits qui sont les pierres de mon royaume. Eh bien, bonne semaine à tous, au revoir et à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel. Et d'ici là, eh bien, allez retrouver les textes de Matthieu. Aujourd'hui, c'était les chapitres 17 et 18.